Que peut la science pour la cité? Que peuvent les femmes pour la science?
France Inter, les savantes. Lorraine Bastide.
Bonjour et bienvenue dans Les Savantes. Je suis ravie de vous retrouver en compagnie d'une femme qui pense le monde d'aujourd'hui et qui a peut-être même l'intention de le changer. Aujourd'hui, mon invitée est mathématicienne. Bonjour Nicole El-Khaoui.
Bonjour Lorraine.
Nicole El-Khaoui, vous êtes professeure émérite en mathématiques appliquées à l'université Sorbonne Université et avez longtemps enseigné les mathématiques financières à l'école polytechnique. On vous appelle parfois la boss des maths, la patronne quoi. Et c'est un honneur de vous recevoir dans Les Savantes aujourd'hui. Vous êtes la championne française des probabilités. Vous modélisez l'incertain. Vous mettez en chiffres et en équations ce que nous, profanes, appelons le hasard. Cette incroyable faculté vous permet de mesurer les risques et vous l'avez longtemps mise au service de la finance. Vous avez formé au sein du DEA que vous avez créé en 90 à l'université Paris 6 une grande partie des analystes quantitatifs qui œuvrent dans les banques d'affaires du monde entier. Mais votre esprit critique aiguisé vous permet aussi de juger, parfois durement, la spéculation et les dérives de ce milieu complexe et très majoritairement masculin. Quand je vous ai invité dans l'émission, vous vous êtes exclamé « Il y a un vrai besoin de faire sortir les femmes scientifiques de l'ombre ». Alors ma première question, Nicole El-Khaoui, est la suivante. Que peuvent les femmes pour les mathématiques?
Est-ce que la formulation c'est « Que peuvent les femmes pour les mathématiques » ou « Quelle est la place des femmes dans un univers comme les mathématiques et les autres ?» La réponse est assez complexe parce que elles ne se sentent pas spontanément à l'aise dans cet univers-là et la société, en fait, ne les y voit pas tellement. C'est un peu par hasard, c'est la moindre des choses pour une probabiliste, que j'ai fait une carrière, en fait, dans ce domaine, assez longue maintenant. Et en fait, effectivement, ma première vraie rencontre a été la découverte des probabilités, et pas de n'importe quelle probabilité, c'était tout un secteur dans les années 68-70 qui était en pleine explosion, parce que ça, il consistait à modéliser des phénomènes extrêmement complexes de la physique, les mouvements de particules, le mouvement brownien d'Einstein, etc. Et la France avait une grande réputation dans ce domaine. Un cours de DEA m'a appris que le hasard, ça se mesure, et pour moi, ça a été un coup de foudre. Donc on peut avoir des coups de foudre pour la science mathématique. Mais juste pour vous donner une idée de ce que ça représente, ces phénomènes, le plus simple, c'est sans doute que vous imaginiez un ivrogne.
Alors. Peut-être qu'on aura l'occasion de reparler précisément du mouvement brownien et des probabilités. Ce qui nous anime là, c'est vraiment la place des femmes dans les maths. Juste un chiffre, vous me disiez juste avant l'émission que dans votre laboratoire, en 50 ans, seulement 2 femmes ont été embauchées, ont été prises en poste.
Alors, il faut faire, c'est un peu comme la question du plafond de verre, c'est-à-dire que des femmes professeurs, classe exceptionnelle, ça c'est exceptionnel, mais enfin des professeurs de haut niveau qui correspondent aux standards européens et américains, effectivement, il y en a eu 2 d'embauchés. Il y a eu des chercheurs de haut niveau, il y en a quelques-unes, mais ça reste un élément extrêmement rare, même si dans le domaine des probabilités, on a formé beaucoup de femmes, parce qu'il y a eu plusieurs femmes leaders, en quelque sorte, qui ont contribué à en former d'autres.
Et vous, en particulier, vous êtes convaincue de la force du modèle et de la nécessité de montrer des femmes mathématiciennes pour inciter d'autres femmes à suivre leur pas.
Je reconnais que j'ai souvent accepté de participer à des émissions ou des choses comme ça, beaucoup pour dire, c'est possible d'être une femme normale. Moi, j'ai 5 enfants. J'ai l'impression d'être comme tout le monde. Mais j'adore les mathématiques, l'abstrait et la modélisation. Porter un regard un peu décalé sur le monde. Et je pense qu'une place des femmes, c'est que même quand elles font des mathématiques, la partie rigoureuse est la même pour tout le monde, mais la manière de le voir, la manière de les faire résonner, la manière de les transmettre est d'une manière nuancée un petit peu différente.
Alors, on va prendre une petite minute pour rendre hommage à une grande mathématicienne, une mathématicienne hors du commun.
I wasn't always very excited about math.
Je n'ai pas toujours été passionnée par les mathématiques. Je préférais lire des romans et je pensais devenir écrivaine.
I got excited about it, maybe. Just as a challenge.
Un jour, je me suis mise aux maths comme un défi. J'ai réalisé que j'aimais vraiment ça. C'était à un moment difficile, pendant la guerre en Iran. Après la guerre, j'ai eu la chance d'aller dans un très bon collège, puis un très bon lycée. J'ai eu de la chance, parce que pendant mon adolescence, les choses se sont stabilisées. C'était la voix de la mathématicienne iranienne Maryam Mirzakhani qui est décédée l'année dernière à seulement 40 ans. Elle était une véritable génie et c'est vraiment pas évident de mettre ce mot au féminin. Ses travaux d'application du théorème de Gauss à la géométrie lui ont valu en 2014 la médaille Fields qui est un peu l'équivalent d'un prix Nobel de mathématiques. Elle est la seule femme à ce jour à l'avoir reçue depuis sa création en 1936. Plus je passe de temps à faire des maths, plus je suis heureuse, écrivait-elle la veille de sa mort sur sa page Facebook. Est-ce que les maths, c'est toujours une passion, Nicole El-Karoui?
Je suivrai complètement ces commentaires parce que si j'ai une histoire plus longue, j'ai toujours la même passion. Et c'est quand même, au moins dans le domaine dans lequel j'ai exploré, etc., c'est quand même la passion de regarder le monde de manière un peu différente, mais aussi de recevoir tout ce que cette richesse peut renvoyer, avec la certitude mathématique que quand une fois on a considéré un problème, on a essayé de le structurer pour qu'on puisse en parler, communiquer et en faire quelque chose.
Nous allons explorer votre passion pour les mathématiques et les probabilités et surtout le long et passionnant parcours qui a fait de vous la boss des maths après ce titre de Charlotte Gainsbourg, Kate.
Yeah.
Nicole El-Khaoui, vous êtes la première mathématicienne que je reçois dans Les Savantes. C'est un reflet, malheureusement, de la rareté des femmes à votre niveau dans ce champ de la recherche. Vous dites que la force des maths, c'est l'abstraction. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
C'est la nature des mathématiques. La nature des mathématiques, c'est éventuellement de partir de quelque chose de concret, de se dire qu'il y a un problème, de regarder un peu différemment des autres la plupart du temps. Mais ce problème, on le résoudra que si progressivement, on arrive à en extraire peut-être la substantifique moelle ou quelque chose comme ça, mais comme quelque chose qui progressivement se détache du réel pour rester un peu des concepts, mais des choses sur lesquelles on va pouvoir penser et agir librement. Avec la certitude que ensuite on ne peut pas laisser son esprit délirer complètement parce qu'il faudra que la preuve vienne permette de communiquer ce point de vue à tout le monde et donc la mettre à la disposition de tout le monde, qui est un risque assez grand et assez difficile. Donc les maths, pour moi, l'une des choses qui était super importante, c'est qu'en maths, on n'est jamais dans la croyance. Il y a quelqu'un qui peut toujours prendre ce que vous avez fait et le discuter, le reprouver, dire c'est faux ou c'est juste. Après, l'appréciation générale relève plus de est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant. Et ça, c'est un phénomène assez culturel des communautés sur lequel on peut discuter.
Mais en maths, c'est toujours vrai ou faux, c'est ça ?
C'est-à-dire que si vous acceptez les hypothèses du point de départ, la conclusion que vous en tirez, elle est toujours normalement vraie.
Voilà. Et quand on s'approche du réel, ça devient beaucoup plus incertain.
Ben, si ça ne vous plaît pas, la conclusion, il faut remonter aux hypothèses de départ. Mais il y a quand même une zone, un peu de consensus qui qui rend la communauté plus stable peut-être et plus conviviale en un certain sens.
Votre champ précis, ce sont les probabilités. D'ailleurs, c'est un champ où les femmes sont plus présentes qu'ailleurs parce qu'il a, je crois, longtemps été un peu déprécié. Alors, cette science est née il y a des siècles de l'observation d'expériences où le hasard semble régner, comme le lancer de dés. Est-ce que faire des probabilités, c'est défier le hasard ?
Non. Pour moi, en tout cas, personnel, la révolution, ça a été qu'il y avait un moyen de le penser. S'il avait résumé en disant le hasard, ça se mesure, pour moi, ça a été comme si on me donnait une clé. Tout d'un coup, il y avait moyen d'y accéder. Donc, il faut bien voir que ça ne veut pas dire qu'on a une réalité philosophique ou autre sur le hasard. Ça veut dire que finalement, on a réduit le hasard à certaines choses, mais que sur ces choses-là, on peut construire un univers qui va essayer d'expliquer des choses, trouver des lois universelles et des choses comme ça. Et donc ça, pour moi, c'était extraordinaire parce que en plus, j'étais quand même attachée à l'idée que la vérité mathématique, elle est quand même relative. Elle est très complète dans son jeu d'hypothèses, etc. Mais ensuite, est-ce qu'on avait le droit de modéliser comme ça, etc. Donc, il y a une remise en cause permanente qui vous oblige à vous voir vous, à voir le monde différemment. Et ça reste ma passion.
Depuis de longues années. Alors, vous avez eu comme professeur, quand vous étiez élève à l'ENS de Sèvres, à la fin des années 60, Jacques Neveu, qui est décédé en 2016, qu'on considère comme le père des probabilités modernes. C'est grâce à lui que vous êtes devenu probabiliste. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans son approche ?
Donc, les probabilités dont on parle, c'est les probabilités complexes des processus, enfin, des phénomènes qui se déroulent au cours du temps. Et souvent, le temps est considéré comme très continu, très fractionné, si on veut. Et il y avait des problèmes conceptuels extrêmement importants. Donc, il y avait la période que j'ai vécue pendant la moitié de ma recherche. C'était une période où on avait besoin de nouveaux concepts, de nouveaux outils pour faire des maths rigoureuses dans l'analyse de ces phénomènes. Et le professeur de Neveu y a contribué de manière majeure. L'autre chose, c'est que c'était un pédagogue extraordinaire et avec une simplicité dans son expression, dans la description des outils mathématiques qui nous a tous bluffés toujours.
Je vous ai entendu dans une émission dire que à ce moment-là, on confondait un peu l'enseignement des probabilités avec le lancer de dés et que lui, il a complètement fait voler en éclats cette vision qui était un peu ancienne en fait.
Voilà, alors ça, c'est l'enseignement qu'on continue à donner dans les lycées et ailleurs. Et un jour, j'ai fait un test dans mon laboratoire pour savoir qui avait eu vraiment un enseignement comme ça. Et en gros, à peu près personne. Donc, ça veut dire que ceux qui ont fait des probabilités ensuite, ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas eu ce type d'enseignement, que celui-là est très ennuyeux, comme beaucoup de l'enseignement des maths qu'on fait dans les petites structures. Donc, en fait, il y a des choses extraordinaires à découvrir et il faut y croire et voilà.
Et non, et les enseignants jouent un rôle fondamental.
Oui, mais les programmes
dans
aussi.
Cette transmission-là,
hein,
ouais. Alors, votre spécialité, Nicole El-Khaoui, c'est le mouvement brownien qui tire son nom d'un botaniste américain, Brown, qui pour la première fois en 1827 a observé le mouvement des particules dans un grain de pollen. C'est absolument fascinant ce que j'ai découvert grâce à vous. Alors, un petit défi de vulgarisation, c'est quoi le mouvement brownien?
Alors, c'est un nom général pour décrire... cette idée de mouvement de particules, ça a été beaucoup repris par Einstein quand il s'est intéressé au comportement des atomes soumis à des chocs. Et c'est pour décrire des phénomènes très erratiques, c'est-à-dire vous pouvez jamais prévoir dans quelle direction quelque chose va aller. Et finalement, s'il y a beaucoup de particules, vous avez beaucoup de mal à suivre même une seule particule. Et donc... Ça a pris une ampleur majeure dans la description des phénomènes physiques dans les années 1930 et ailleurs. Et donc, la nécessité de modéliser ça mathématiquement, ça permet de décrire certains effets, s'est imposé rapidement. Mais c'est comme c'était extrêmement complexe et qu'il y avait des pièges mathématiques, ça a pris beaucoup de temps et le formalisme sur lequel on a travaillé dans les années 60 avait du mal à s'imposer. J'ai encore trouvé des comptes rendus de séminaires où les gens expliquaient, on a, pour commencer, des séminaires avancés, et on a adopté le formalisme des tribus, enfin, qui fait très peur à tout le monde. Voilà, ce qui n'était pas acquis, quoi.
Pourquoi il y avait autant de résistance? Qu'est-ce qui faisait peur dans cette théorie?
Ben, c'est-à-dire, il y a un phénomène qu'on voit apparaître, c'est que quand ça devient compliqué à bien formaliser mathématiquement, la technique augmente, mais du coup, l'augmentation de la technique fait que ça éloigne de plus en plus de gens l'accès de la théorie à des gens qui ne sont plus des spécialistes. Et en fait, on voit dans le développement de la science, enfin moi je l'ai vécu dans ce domaine-là, qu'il y a une sorte de progression, et puis tout d'un coup ça devient tellement abstrait que bing, c'est comme si ça tombe,
tout
ça
ne peut
plus s'enseigner, et donc ça repart sur une autre voie. Et une partie de ce qui avait été fait va être oubliée, mais redécouvert, ou enfin... avec d'autres motivations et d'autres manières d'en parler, ce qui est très important.
Alors cette métaphore de l'ivrogne que vous aviez commencé à nous expliquer en introduction, en quoi elle permet de comprendre correctement le mouvement brownien?
C'est-à-dire, il y a toujours une question de est-ce que vous êtes capable de vous représenter un peu les phénomènes, même si le mathématicien va passer sa vie à essayer d'oublier de plus en plus la représentation qu'on en a. Mais pour donner l'intuition de ce phénomène, la problème de l'ivrogne, elle est assez sympa. C'est juste que n'importe qui est capable d'imaginer un ivrogne qui se déplace, mais en gros, son déplacement est très vacillant, il va faire un pas à droite, un pas à gauche, etc. Et l'une des caractéristiques de ça, c'est que si on le remettait au moins point de départ et qu'on le fasse remarcher, il va faire quelque chose de complètement différent.
Ouais, voilà. Bien sûr.
Et donc, ça, c'est une modélisation très vraie, d'une certaine manière. Il suffit de regarder enregistrer le tracé de son déplacement de ce qu'on appelle le mouvement brownien, parce que beaucoup de phénomènes ressemblent à ça.
Alors, les chiffres concernant les femmes dans les mathématiques sont édifiants. On le dit un petit peu depuis le début de l'émission, mais je trouve que c'est pas mal d'insister dessus. Si les femmes sont 45% en terminale S, elles ne sont plus que 15% dans les grandes écoles. Elles représentent à peine 8% des effectifs de l'ENS. Alors, selon Laurence Brose, qui préside l'association Femmes et Mathématiques, la situation est même en train de se dégrader. Pourtant, il y a des études qui ont été faites. On sait que les blocages sont complètement psychologiques. Je suis tombée sur une étude hier soir qui m'a vraiment interpellée. Quand on donne à des écoliers en primaire une figure complexe à reproduire à la main, donc un carré avec un rond, des zones coloriées, avec des droites, des lignes. Quand on dit aux écoliers, c'est un exercice de dessin, les filles font mieux que les garçons. Et si on leur dit c'est un exercice de géométrie, les filles font moins bien que les garçons. Donc le stéréotype des filles sont mauvaises en maths, c'est complètement intériorisé par les écolières elles-mêmes. Que préconisez-vous, Nicole El-Karoui, pour que les filles aient moins peur des maths ?
Elles intériorisent le regard de la société sur le fait que une femme peut pas être femme, avoir des enfants, se comporter naturellement et être une mathématicienne. C'est parce que on n'ose pas affronter, on fait la question, pour moi, qui est la vraie question, c'est la question de l'abstraction. Est-ce que les femmes sont capables ou pas d'abstraire? Elles sont autant que les autres capables d'abstraire.
Ça va être ça, bien sûr.
Voilà. Alors, est-ce qu'elles aiment l'abstraction? Oui, même si ça apparaît un petit peu moins clair. Peut-être que, en tout cas, comme femme, alors que j'ai pas eu beaucoup de problèmes par rapport aux mathématiques, est-ce que j'ai le droit d'en faire ou pas, il y a quand même toujours une sorte d'inquiétude dans ce monde très abstrait de rapport entre cette formalisation, cette représentation du monde qui a quand même une incidence sur notre vie quotidienne, etc. Et on va dire ce que représente une femme, donc en particulier la capacité de donner la vie. Donc il y a quand même une compétition un peu dans sa tête entre les deux représentations.
On ancrerait plus les femmes dans le réel parce qu'elles sont mamans, parce que du coup on leur interdirait
mais
un peu l'accès à l'abstrait.
Elles
s'ancrent elles-mêmes, bien sûr.
Voilà.
Ouais,
c'est
ouais,
surtout
c'est intériorisé.
Elles. Bien sûr, la société a joué, mais... Mais bon, moi je pense qu'on est un virage en fait, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont un bon niveau scientifique, qui comprennent les problèmes, elles vont toutes en biologie, parce que la chose est plus concrète, enfin les rassure. Mais il faut juste leur dire, mais allez-y, c'est un monde extraordinaire, en plus il y a plein de postes pour les femmes, donc profitez-en, et vous êtes aussi capables que les autres. Et justement, c'est important que j'y participe pour cette raison, c'est qu'on ait des images auxquelles on peut croire, et que les gens vous disent, mais c'est absolument passionnant. Bon, et vous pouvez le faire, c'est... voilà. Alors moi, je vais juste dire que j'ai eu la chance de commencer la recherche, puisque fondamentalement, c'est plutôt ce métier dont on parle, en faisant une thèse à trois avec deux garçons. Et là, on a fait de la recherche pour la science. On était un peu mythique comme ça. Mais la question de savoir si t'es fille ou garçon, si l'un apportait plus, n'était absolument pas en jeu. Et je pense qu'une grande partie de ma carrière ensuite a été fondée par ça. Parce que voilà, on a découvert la passion, on a fait travailler ensemble, la puissance de l'échange, des gens différents, etc. Et voilà. Mais les femmes peuvent être présentes à tout niveau et elles ont des choses à apporter. L'une des choses qu'on doit faire, c'est casser un tout petit peu ce monde, par exemple des mathématiques, qui est un peu fermé, dire qu'il peut y avoir d'autres manières de penser certains critères et y aller. Donc foncez, mesdemoiselles.
You feel the vibration waving through me. Another kind of sensation. See, can you see? See how I operate now? How modulate now? Can you feel the vibration?
C'était Jeanne Hadid, Mutate.
France Inter. Les savantes. Lorraine Bastide.
Penchons-nous un instant sur votre long et fascinant parcours, Nicole El-Karoui. Vous avez grandi à Nancy, dans une famille nombreuse, protestante, avec des parents ingénieurs. Alors à l'époque, dans les années 50, il était assez rare que les filles puissent accéder, ne serait-ce qu'en sixième, au collège, et encore plus rare qu'elles rentrent dans des études scientifiques. Dans votre classe prépa en maths P, il y avait 4 filles pour 45 garçons. Qu'est-ce qui vous a donné, à vous, la confiance de faire des maths ?
Donc d'abord, quand même, je précise que moi, j'ai fait des études littéraires essentiellement, français, latin, grec. Et dans la formation, on pouvait avoir en seconde une formation en littéraire, sciences renforcées. Ça, on appelait à prime à l'époque. Et donc, on a continué à évoluer avec des enseignements de maths extérieurs, plus la classe de lettres dans laquelle on était. En fait, j'ai été passionnée par la philo en terminale. Et en fait, j'ai choisi les maths en disant, entre une disserte de philo à préparer en 6 heures et un problème de maths, qu'est-ce que tu préfères ? Et j'ai décidé que c'était le problème de maths. C'est comme ça que je suis rentrée en maths sup au lycée de garçons. Il faut quand même dire que non seulement c'était 4 filles dans 45 garçons, mais à l'époque, les études de lycée étaient séparées filles et garçons. Donc c'était un choc. Voilà, mais dedans, dans la classe, il y avait un de mes frères qui a fait comme s'il ne me connaissait pas.
C'est pas vrai, sympa.
Pendant longtemps, beaucoup de gens ont cru qu'on était cousins. Parce qu'en fait, je m'appelais Schwartz, c'était un nom qui passait pas inaperçu. Et non. Voilà, mais c'est comme ça en fait que ça s'est décidé. Mais surtout, en maths sup, j'ai découvert les maths modernes à l'époque, la théorie des ensembles. Et autant au lycée, les maths me passionnaient pas, comme il disait la médaille Fields. Hein. Mais là, tout d'un coup, oui, c'était la révélation. Il y avait de la logique, de la structure, des proximités entre des choses qui paraissaient complètement étrangères, etc. Je pense que ma vie a beaucoup été guidée comme ça. Aller voir des choses très différentes, découvrir qu'il y avait beaucoup de points communs, mais que cette diversité rendait la compréhension du monde différente, plus tolérante. Et voilà, puisque je me suis même mariée avec un Tunisien, j'ai découvert la culture arabe. C'est pas étranger à la manière de vivre et de réfléchir. Voilà.
C'est intéressant. Pour vous, les mathématiques, c'est presque un humanisme, en fait.
Pour moi, c'est une pause dans la complexité du monde, parce qu'on regarde les choses, on les associe, on essaye de comprendre ce qui est commun. Et puis, une fois qu'on a élagué un peu, on peut raisonner dessus, tirer des conséquences, mais des conséquences relatives, parce qu'on sait que c'est très dépendant de l'hypothèse. Donc, on sait mieux ce qu'on fait, c'est ça, ouais. Juste pour un temps. Mais le danger, c'est de croire que... on a l'explication du monde. Ça, c'est pas mon genre.
Et vous dites souvent que les maths, c'est une question de confiance. Moi je m'interroge dans une éducation, ce qui peut donner cette confiance-là. Est-ce que vos parents ou vos frères et sœurs vous ont permis d'être cette jeune femme qui rentre à 18 ans en maths P dans un espace non mixte ?
Non, alors, bon, c'est une chose qui est personnelle, que je raconte éventuellement, enfin, volontiers d'ailleurs, c'est que, éduquée dans un milieu protestant, en fait, les milieux protestants, ils ont plutôt la vision de la critique biblique, etc. Il faut s'approprier le texte, il n'y a rien de donné d'avance, il n'y a pas de voix, voilà. Et donc ça, moi, je pense que ça a été très déterminant pour moi, et qu'en plus, du coup, ben ça, c'était quelque chose qui était vrai pour les hommes et pour les femmes. Il n'y avait pas de différence là-dedans, surtout que dans la tradition des persécutions, les femmes ont joué un rôle très important dans la transmission de savoir lire la Bible, etc. Donc il y avait une sorte de culture naturelle sur le fait qu'en tout cas, filles et garçons, on avait accès à réfléchir. Bon, et comme les filles sont plutôt plus scolaires que les garçons, les résultats scolaires de ma part étaient plutôt meilleurs. Mais c'est donc ensuite, non, après l'incertitude, d'abord j'étais quelqu'un de terrorisé, j'ai jamais réussi à passer des oraux. Enfin, j'étais très bonne à l'écrit, donc c'est comme ça que j'ai réussi, mais bon. L'absence absolue de confiance, elle est très générale. J'ai discuté avec beaucoup d'amis qui avaient très bien réussi scientifiquement et qui disent qu'être 18, 20 ans, c'est la même chose. On n'a pas confiance en soi. Le milieu extérieur, même les classes prépa, on m'a toujours expliqué que j'étais nulle, même quand j'étais dans les 10 premières. Voilà. Et ça, ça mine. Ouais. Bon. Ouais. Et donc... Mais il faut avoir la chance de faire une thèse avec trois copains, enfin trois amis. Enfin, bon, après les chances, on se les crée un peu quand même, mais c'est très difficile de résister. Et si vous avez un souci quand vous vous mariez avec les enfants, etc. Moi, pendant un an, j'ai séché sur un problème de maths pendant un an. On jetait les papiers tous les soirs. Et j'avais quand même deux jeunes enfants à la crèche. Et quelquefois, vous posez la question de savoir si... votre choix.
Si j'ai choisi la bonne voie, voilà, quoi, bien voilà, sûr. Ouais,
mais j'avais besoin des deux vitalement, donc j'ai continué.
Ça peut être une distraction voilà. Des biberons aussi, d'avoir un problème de maths dans la tête.
J'ai fait beaucoup de maths en faisant la vaisselle.
Alors, mais vous êtes rentrée à l'école normale supérieure de Sèvres à une époque où c'était une école de filles uniquement, et vous dites souvent que vous regrettez que normale sup soit devenue mixte, ça date des années 80-85 quand ça s'est achevé. Pourquoi vous dites ça? La mixité finalement, ça semble souhaitable?
Il y a plusieurs choses. Ce qui se passait, c'est que c'était historique, ces écoles normales de filles, puisque à l'origine, les écoles normales sont là pour former des professeurs de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement des écoles normales d'instituteurs. Et donc, comme les lycées, enfin, les structures de formation étaient séparées, filles et garçons, ben, les écoles normales l'étaient. Donc ça, c'est un premier point. Mais après la mixité de la scolarité, j'ai discuté pas mal avec des élèves, etc. Et en fait, un certain nombre de filles auraient été contentes d'avoir deux ans pour se retrouver à faire des maths, des sciences, etc. Mais sans la pression et le regard des garçons, pour se reconstruire une identité scientifique. Bon, évidemment, c'est complètement hors norme de tout ce qu'on raconte maintenant, mais bon, c'est une question intéressante. Le dernier point, c'est que les mathématiques sont la discipline scientifique sur laquelle l'élimination des filles est le plus réelle. Et ces écoles normales supérieures de filles, je l'affirme et je le confirme et je n'ai pas peur de le dire, c'était une ouverture, un effet de levier au point de départ qui était incroyable et qui coûtait rien à la société parce que les gens qui n'avaient pas faire de la recherche faisaient d'excellents profs et qui rassemblaient un potentiel de gens qui ont alimenté les professeurs d'université de ma génération et un peu après, mais depuis il n'y en a plus, de manière spectaculaire. La France était le pays du monde où il y avait plus de femmes profs à l'université. Et quand j'allais à un congrès de maths, les femmes étaient françaises, un peu italiennes. C'est tout. Il n'y a pas d'américaines, pas d'allemandes, pas de... Et c'est encore maintenant. Donc, pourquoi on a foutu ça en l'air? Pardon. Non, mais le prétexte d'égalité...
Vous êtes battue à l'époque. Hein. Vous avez envoyé des lettres à tous les professeurs de France.
Oui, parce que j'étais responsable des études dans une des écoles normales. Et je savais que j'avais 17 filles. Et de toute façon, le résultat s'est pas fait attendre. On est passé de 17 filles à 17 garçons. Quand le concours a été rechangé. Alors, les gens me disent, mais ça justifie, ça t'explique que les filles étaient nulles. D'abord, ces filles se retrouvaient dans les 10 premières de la grègue, mais la question, elle n'était pas là. C'est que personne n'a accepté de réfléchir à comment on sélectionne des filles à 18, entre 18 et 20 ans, pour la compétition. Ben, à 20 ans, ça les intéresse plus. Ça, c'est clair. Elles ont 2 ans de maturité de décalage avec les garçons. Donc, les garçons, on les recrute à une période qui correspond à un moment où ils ont envie de le faire. Et les filles, c'est déjà fini. Donc, voilà. C'est extrêmement pauvre, la réflexion. Parce que, on sait, mais d'ailleurs, c'est pas seulement pour les concours, hein. Chaque fois que la loi d'égalité en 81 s'est appliquée, en fait, ce qu'avaient gagné les femmes, elles l'ont perdu.
Ouais.
Voilà.
Il y a une forme de discrimination positive qui existait, en fait, et qui s'est volatilisée.
Mais n'ayons pas peur de la discrimination positive quand on en a besoin, quand elle donne un coup de pouce. Mais là, on est passé, il y avait 17 filles à Fontenay-Saint-Cloud, et puis il y en avait 19 à Sèvres, à l'école normale de jeunes filles. Ben voilà, on est passé de 17 plus 19, à 3 ou 4.
Il y a eu zéro fille à l'ULM en maths l'année dernière recrutée. Zéro.
Oui.
Ouais, bah. À l'école de la rue d'ULM.
Voilà. Bon. Non. Ouais. Mais on a réfléchi comment on recrute les femmes, c'est tout? Non. Enfin, on n'est pas les mêmes. Pourquoi c'est les critères de garçons qui doivent l'emporter, faire vite, performant, montrer d'une certaine manière qu'on est intelligent? Les femmes, elles préfèrent faire plus à fond. Moi, j'ai fait ça pendant très longtemps, moins de publications. Mais ça laisse d'autres traces. C'est compatible. Il y a de la place pour tout le monde, ouais. C'est ça surtout.
Ouais. Alors on va un tout petit peu accélérer dans votre parcours, dans votre long parcours, parce que donc à 40 ans, vous prenez une décision assez surprenante d'aller explorer l'univers de la banque. Vous étiez intriguée par les liens entre les maths et la finance. Et on peut dire que vous avez eu du flair parce qu'on est à la fin des années 80, au moment précis où des lois financières font basculer le marché français dans l'ère libérale. Vous mettez au point des outils qui permettent de modéliser le risque. Vous formez des ingénieurs Kantz que les banques d'affaires s'arrache au sein du DEA que vous montez à Paris 6. Et la finance, depuis, consomme plus de maths que l'armée ou l'aviation. Le problème, c'est que ces outils mathématiques que vous transmettez favorisent également la spéculation.
Share prices continued to tumble.
Lehman Brothers was forced to declare itself bankrupt.
We are watching this tsunami coming.
They were having massive private gains at public loss.
A financial engineer built dreams. When those dreams turn out to be nightmares, other people pay for it.
Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, they knew what was happening.
What do you think about selling securities which your own people think are crap?
As a hypothetical?
No, this is real.
Alors c'était en anglais, mais on a bien compris, hein, Christine Lagarde qui parle de tsunami, la faillite des Lehman Brothers, la folie des spéculateurs. C'était le documentaire Inside Job qui est sorti en 2010 et qui décrypte la fameuse crise des subprimes de 2008. Vous levez les yeux au ciel. On vous a souvent reproché d'avoir un peu contribué à cette crise, d'avoir créé le monstre. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là?
L'économie libérale telle qu'on la connaît, elle est née en 1971 avec la déclaration de Nixon de décider d'arrêter la convertibilité du dollar en or. Ça crée un grand nombre de problèmes dans l'économie, dans l'économie américaine également. Et une des réponses des marchés, on peut dire, ou du système financier pour la survie, en fait, ça a été de créer des marchés qu'on appelle les marchés à terme et qui ont permis aux agents économiques d'avoir des instruments pour lutter contre la fluctuation des monnaies, des taux d'intérêt, etc. Donc c'est dans ce contexte-là que nous, on a travaillé. Le point évidemment fondamental, c'est que très souvent, les choses qui sont utiles d'une certaine manière peuvent être employées différemment et effectivement être utilisé de manière majeure pour la spéculation.
Vous pensiez en fait prévenir des risques. Vous êtes venu mettre un peu d'ordre dans ce qui était très chaotique et ça a été utilisé en fait pour
Il faut voir que ces marchés à terme, ils ont été faits pour aider à gérer le risque qui venait en fait d'avoir à prendre des positions dans le futur, puisque tout était incertain. Les monnaies en particulier, là, les cours d'action. Et donc, en fait, ces marchés, ils ont contribué à fixer un certain nombre de prix comme des promesses de vente dans le futur. Et l'autre chose, c'est éventuellement assurer des quantités dans le futur. Donc, l'assurance, ça veut dire qu'on prend les risques à la place des autres. Bon, et donc, il fallait trouver un moyen de quantifier les risques qu'on prenait. Et celui qui les vendait, enfin, qui prenait le risque, mais il fallait qu'il trouve un moyen de les gérer d'une certaine manière. Donc là où les mathématiques sont intervenues, c'est dans la vision de comment gérer ces risques, parce que le point de vue ne pouvait pas être le point de vue des assureurs standards. Le risque de marché était trop spécifique. Et donc il s'est avéré qu'effectivement, il y avait une certaine analogie entre la variabilité des cours qu'on voyait apparaître sur les écrans et puis finalement la promenade de l'ivrogne.
Ce mouvement brownien que vous connaissez par cœur.
Exactement. Ouais. Mais toutes les idées sont nouvelles. Donc, c'est en fait ça qui, moi, m'a stimulée en regardant ce nouveau marché. Donc, l'époque de 89 en France, sur cette activité-là, c'est vraiment une start-up. Il y a un nouveau marché, des nouvelles idées, des nouveaux clients et une nouvelle informatique.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans pour que cette crise arrive? Les gens ont été fous, n'ont pas été assez prudents, les traders étaient trop payés. C'était quoi le problème?
Non, mais nous, on a travaillé dans un tout petit secteur. Ça représente absolument... Enfin, c'est pas une question de se dédouaner. Il y a des questions très intéressantes de quelle est la place d'un scientifique dans le monde social, qui est quand même assez différent de celui de la physique. Mais en fait, c'est tout un système qui amène à ça. C'est ça ce qu'il faut voir.
Ouais.
Bon, et les citoyens feraient mieux de se renseigner un peu et d'être un peu plus au courant parce que c'est pas uniquement parce qu'on y a mis des maths. C'est, sous prétexte que les gens comprennent pas ce qu'on fait ou des choses, c'est dramatique, mais c'est pas vrai du tout. Vous ne savez pas comment fonctionne votre ordinateur, vous ne savez pas comment fonctionne votre moteur. La question, elle est pas là. C'est comment vous positionnez par rapport à ça. Une partie de la crise des subprimes, elle a rien à voir avec les maths et les choses comme ça. C'est une des décisions de Kennedy, de je sais plus qui, de donner l'accès
des États-Unis en tout cas.
Oui, mais c'est complètement. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de regarder les structures qui organisent les différents marchés et la finance. En fait, il y a eu l'abolition du Glass-Steagall Act qui séparait les activités des banques d'investissement et de la banque de détail. Et c'est cette abolition qui a permis la crise des subprimes, etc. Donc là, c'est une leçon aux mathématiciens parce que vous croyez que vous faites un certain nombre de choses. Mais en fait, si vous ne regardez pas l'univers dans lequel vous êtes, etc., ben, vos hypothèses de départ qui concernent un tout petit segment de l'activité ne captent pas des phénomènes absolument fondamentaux. C'est là qu'est notre problème, pas le fait d'avoir formé des gens qui, a priori, comprenaient mieux ce qu'ils faisaient, analysaient mieux les risques, etc. La question, c'est de maintenir des gens de haute compétence et d'exigence dans un monde où... le problème numéro un, c'est de gagner de l'argent. Voilà.
On a déjà volé des nuits, on a déjà foulé l'ennui, sans s'ennuyer, toucher les cimes, on a déjà brûlé l'ultime, on a déjà vu la couleur.
Thank you.
Pour cette dernière partie de l'émission, Nicole El-Khaoui, nous allons mettre de côté l'univers un peu anxiogène, enfin pour moi, de la finance, pour se pencher sur ce qui nous, sur ce qui vous anime ces dernières années, le risque de longévité. Pourquoi vous avez eu le désir de changer le champ d'application de vos recherches de mathématicienne?
Alors, est-ce que c'est le champ d'application de mes recherches de mathématicienne? C'est plutôt que parmi la question des risques au sens large à laquelle j'étais confrontée en regardant le monde de la finance, émergeait ce que les gens appellent le risque de longévité, c'est-à-dire les conséquences de l'augmentation de la durée de vie des populations, comme on le voit apparaître en Europe, au Japon et dans un grand nombre d'endroits. Pourquoi c'est un risque ? Pour tout le monde, c'est plutôt un intérêt ou un avantage. Mais comme le monde dans lequel j'évoluais indirectement était de type économique et financier, associé à cette longévité apparaît très rapidement des problèmes de financement, financement des retraites, financement de...
Des assureurs, par exemple.
Des assureurs, etc. Et en fait, depuis un certain temps, je m'étais mis à travailler avec des assureurs pour qui c'était une question. La solution de créer des produits qui permettent de se protéger contre ce risque, ça veut dire juste de faire des investissements qui rapportent, enfin, qui, c'est comme les fonds de pension par capitalisation, n'avait que très peu de succès et était assez compliqué. Mais surtout, je me suis intéressée, évidemment, je suis matheuse, à la modélisation que les gens utilisaient. Donc, en particulier, c'était très frappant. Ils s'intéressaient qu'aux gens de plus de 65 ans et à leur mortalité. Mais moi, naïvement, je me suis dit, mais les gens qui ont 65 ans maintenant, ben, ils avaient... 40 ans avant, ils avaient 25 ans et on ne peut pas croire que l'univers dans lequel ils ont grandi, les conditions économiques et sociales de la période n'aient pas d'incidence, en fait, ou ne permettent pas de mieux comprendre, prévoir ce qui allait se passer. Donc ça a été une démarche de modélisation très importante. Et puis, il se trouvait que j'étais à l'école polytechnique, qu'il y avait les gens en biologie qui s'intéressaient à la dynamique de population, etc. Donc, ça n'avait pas la même chose, mais il y avait quand même un contexte. Toujours de penser, c'est difficile de recréer de zéro. Et donc, j'ai mis un étudiant là-dessus. Et depuis, j'ai trouvé le sujet absolument passionnant, mais de plus en plus difficile à comprendre. Et donc, j'ai été explorer des domaines très variés, le 19e siècle, par exemple, et le choléra, pour comprendre comment ont été prises les premières mesures de politique de la santé, qui ont un gros, gros impact sur ces questions de longévité. Enfin, c'est quand vous rendez l'eau potable que vous sauvez 30% des infections dues aux microbes, etc. Et on est parti dans un champ d'exploration tout azimut, mais qui est un peu difficile à... dans lequel il est difficile d'extraire des choses très palpables.
C'est dur à vulgariser, hein. Vous dites que ça fait 7-8 ans que vous êtes là-dessus, mais les gens hésitent encore à vous en parler, ils préfèrent parler de la finance parce que c'est...
mais c'est ma faute parce que j'ai très peu publié, justement, parce que c'était difficile d'extraire... Alors, on a publié des maths, mais pas encore sous une forme très... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître des évolutions différentes. Avant, il y avait un point de vue un peu naïf, d'une certaine manière. Et maintenant, on comprend plus vraiment les évolutions qui peuvent apparaître aux États-Unis, etc. Et il y a une vraie demande, donc, de plus de mathématiques. Non pas parce que les mathématiques, c'est la vérité. C'est que les mathématiques, elles permettent de trier un peu dans la complexité, isolé, de dire si vous regardez ça et le supposez comme ça, le résultat de ce que vous faites au point de départ, c'est ce qu'on vous sort à la fin. Peut-être que ça ne vous plaît pas du tout et qu'on, de toute façon, va remettre sur le tapis, mais voilà. Et en fait, c'est aussi un problème social. Donc, un qui me paraît très important, c'est qu'on parle donc du risque de longévité, ce qui est catastrophique, puisque c'est très négatif.
Ça paraît un peu paradoxal.
Donc, en fait, en regardant un petit peu, je préfère qu'on dise qu'en fait, on est dans un monde dans lequel les populations rajeunissent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire rajeunir? Ça veut dire que... À 70 ans, ben vous avez l'état de santé, l'état de votre cerveau, l'état des gens qui pouvaient avoir 60 ans il y a une vingtaine d'années, etc. Et donc, en fait, on est en train de voir émerger des générations de gens dont la société ne sait pas quoi faire. Dans les rubriques officielles, on est senior à 60 ans. Mais si vous prenez les 65 jusqu'à 75, en tout cas, vous avez là une... catégorie de gens, pleine santé, avec une grande expérience, culturelle ou pas, mais qui sont inemployés. Enfin, inemployés, c'est pas dire... non, il faut pas en parler, parce que ça veut dire qu'il faut augmenter l'âge de la retraite, mais... mais non, mais il y a un potentiel extraordinaire et tablons sur le positif.
Les maths à la rescousse de la prise en charge...
Pas vraiment, parce qu'il suffit de regarder, voilà. Les maths, elles vous obligent à dire on ne pense pas comme tout le monde d'abord. Ça, c'est le postulat, donc ça me plaît beaucoup. Et voilà. Mais après, il suffit de regarder autour de vous, tout le monde le verra. Non, c'est plutôt de se dire, mais quand même, là, il y a un potentiel incroyable. Donc, il y a un potentiel à avoir des filles qui font des maths, il y a un potentiel à voir que la France rajeunit, et il y a un potentiel à penser la société ensemble. Voilà, parce que c'est quand même la diversité de tous ces gens qui fait la richesse de notre société.
Vous allez bientôt avoir 75 ans, Nicole Elkaroui. Oui, vous êtes toujours aussi passionnée, on l'entend au micro de France Inter ce matin. Vous êtes toujours en poste et vous jouez toujours du piano. On n'a pas encore eu le temps de parler du rôle de la musique dans votre vie.
Oui, donc je ne suis pas seule en mathématiques à faire de la musique. Il est bien connu qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui sont très brillants de ce côté-là. Ce n'est pas mon cas en termes de... d'interprète, enfin voilà, je ne joue pas particulièrement bien, mais la musique, ça a toujours été un endroit à part, bon, très proche des mathématiques d'une certaine manière, parce que l'abstraction des sons ressemble à l'abstraction de la pensée qu'on peut avoir, mais je pense que les mathématiciens, ils sont plus créés un espace... une case de résonance quelque part, comme quand vous faites résonner les notes ou les choses comme ça, ou des idées, plus que dans la vision de la chose, qui, parce que l'objet qu'on voit certes, fait toujours écran. Ah, voilà. Et donc, en tout cas, c'est sûr que j'ai expliqué quelquefois que j'ai jamais fait faire de maths à mes enfants, mais j'ai fait travailler le piano.
Voilà. Ce qui leur vaut aujourd'hui d'être tous à Polytechnique.
Non, pas nécessairement. Non, non. Enfin, voilà, on a des enfants brillants.
Deux enfants polytechniciens, dont une fille.
Non, oui, oui. Non, j'ai pas après. Non, voilà. Enfin, bon, ils ont vu leur mère travailler aussi. Ça, ça compte. Et la diversité culturelle auquel ils ont été élevés était aussi extrêmement importante.
Merci beaucoup, Nicole Elkaroui, d'avoir été mon invitée dans Les Savantes. Toutes les informations concernant l'émission sont à retrouver sur le site franceinter.fr. Vous pouvez y réécouter l'émission en ligne sur le site et bien sûr la podcaster avec votre application préférée. Cette émission a été réalisée par Coy Nguyen et préparée par Perrine Malinge, avec aujourd'hui à la technique Antoine Gomez. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Dibert. Merci d'avoir écouté ce rendez-vous des savantes. Bon après-midi. À samedi prochain avec l'historienne Bibia Pavard.